الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué quatre hadiths. Le hadith de Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, radiyallahu anhu. Le hadith d'Abu Huraira. Le troisième hadith d'Abu Huraira. Et le quatrième hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu. Qui se propose pour nous réciter le premier hadith de Abdullah ibn Yazid radiyallahu anhu. Qui se propose? Fadal al-Jawad.
An Abdullah ibn Yazid
Bini
Yazid al-Ansari radiyallahu anhu. Qala haddathani al-Bara'u ابن عازب وهو غير كاذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجدا بعده رواه البخاري ومسلم.
أحسنت, بارك الله فيك. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. بكون ماكي صنفي لا. تفضل منير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمنا الشدة اللي sur le ميم إذا أمنا نعم فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمنا فأمنوا فمن نعم فإنه
من وثق تأمي له
نعم غفر
له ما تقدم من ذنبه.
أحسنت, رواه البخاري ومسلم, بارك الله فيك. Troisième hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Il est court celui-là aussi. Enfin, Malcolm, tfadhal. Anna Rasoula. رواه البخاري ومسلم. Et le dernier hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, qui se propose? Ibrahim. Ma hafet? Taïb. Qui? Nadir Salim. تفضل نادية تفضل.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأتأخر
إني
لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما
يطيل بنا
فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
فما رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد ما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس فإن منكم منفرين
إن
منكم منفرين فأيكم أما الناس فليجيز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
أحسنت. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. وقال المؤلف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. Le chapitre de la description de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. L'auteur cite dans ce chapitre un certain nombre de hadiths authentiques qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière qui est complète et parfaite, une prière qui ne contient aucun manque ni aucune lacune, car et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam le législateur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un législateur? Non. C'est un législateur. Non. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la faculté de légiférer? Oui ou non? Non. Oui. Taïb, comme on est des gens qui suivent la vérité et qui suivent les preuves et les dalines, quelle est la preuve que le... Non, Ahsant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Laula an ashuqqa ala ummati » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث آخر عند كل وضوء. La preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم est aussi un législateur et le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم si ce n'était une contrainte pour ma communauté je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière ou pendant chaque ablution. Donc le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم dit je leur aurais ordonné, cela est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi un législateur. Et a cité cette preuve, entre autres, Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Donc, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une prière qui est complète et parfaite, qui ne contient aucune lacune, ni aucun manquement, ni aucun défaut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un législateur, il nous est donc obligatoire de le suivre et de précéder sa sunna devant la parole de quiconque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Priez comme vous m'avez vu prier. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Il nous est donc obligatoire de connaître la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la comprendre. Et de savoir également que concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes sont une obligation. C'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa prière, là-bas, c'est que c'est une obligation. فَإِنَّا فَعَلَهُ فِي الصَّلَاتِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. Les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes pendant sa prière prouvent l'obligation, et celui qui dit qu'elles ne sont que ce n'est pas obligatoire, alors il doit apporter une preuve. C'est-à-dire un autre hadith qui vient prouver que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa prière, à tel ou tel moment de la prière, n'est pas une obligation, mais quelque chose de préférable ou de recommandé. Al-Hadith al-Tasi'u wa al-Sab'un, le 79e hadith. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري ومسلم. Le 79e hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le takbir dans la prière, il observait un moment de silence avant de lire. J'ai dit, c'est-à-dire à Abu Huraira, ô envoyé d'Allah, par mon père et ma mère, c'est-à-dire, et on verra par la suite, c'est-à-dire je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Le laps de temps ou le silence que tu fais entre le takbir et la lecture, que dis-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis, ô Allah, éloigne de moi, éloigne mes péchés de moi, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés, comme le vêtement blanc est purifié de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث أولا هنيهة قال في القاموس الهنو بالكسر الوقت وفي الحديث هنية مصغرة هنا وهي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بمعنى قليل من الزمان وأصلها هنوة أي شيء يسير ويروى هنيهة بإبدال اليائها قلت المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Premièrement, le terme hunayha. Hunayha, qui est, comme l'a dit, comme cela est cité dans Al-Qamous, dans le dictionnaire de la langue arabe, Al-Hinwu bil-Kasri al-Waqt. Ça vient du mot Al-Hinwu qui veut dire le temps. Et dans une autre version du hadith, فَسَكَتَ هُنَيَّةً. Donc il y a deux versions du hadith qui sont authentiques. Dans une version c'est هُنَيَّةً et dans une autre version c'est هُنَيَّةً. C'est-à-dire un petit laps de temps. Un petit laps de temps. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu un petit moment. Saniyan al-thalj wal-barad. Al-barad bit-tahrik hubbul ghamam. La neige et al-barad. Al-barad c'est la grêle. Thalithan ara'aytu sukutaka dhummata'u ra'aytu. والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام ويدل عليه عبارة ما تقول. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son silence. Ici, le silence qui est voulu, ce n'est pas de ne pas parler, ce n'est pas le silence qui est le contraire de la parole, mais ce qui est voulu, c'est le fait de parler à voix basse. Et la preuve est que Abu Huraira radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a voulu dire par le silence le fait de ne pas parler, il ne lui aurait pas demandé, que dis-tu? Donc, as-sukut huna, c'est le contraire d'élever la voix, c'est-à-dire, que dis-tu à voix basse. الدنس بفتح الدال والنون الوسخ. الدنس signifie la saleté, chose impure. بأبي أنت وأمي الباء متعلقة بمحذوف والتقدير أنت مفدي بأبي وأمي. C'est-à-dire par mon père, pour toi et ma mère, c'est-à-dire que je sacrifierai pour toi, mon père et ma mère. المعنى الإجمالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتحة. وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة. لذا قال أبو هريرة أفيدك يا رسول الله بأبي وأمي. ما تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف، موقف المناجاة، لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا لا يحصل معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدا، وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها بهذه المنقيات الباردة الماء والثلج والبرد. وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait le takbir de la prière, c'est-à-dire le premier takbir, celui qui fait entrer dans la prière, il baissait sa voix et parlait à voix basse pendant un court instant avant de lire Al-Fatiha. Et les compagnons, radiyallahu anhum, savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose pendant ce laps de temps. C'est pour cela qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Je sacrifierai pour toi, père et mère, ô envoyé d'Allah. Que dis-tu pendant ce petit laps de temps entre le takbir et la lecture, c'est-à-dire de Al-Fatiha ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis, oh Allah, éloigne entre moi et mes péchés, comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés, comme est purifié un vêtement blanc de la saleté. Ô Seigneur, lave-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. Et cette invocation vient ou épouse totalement le contexte dans lequel se trouve le prieur, qui est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prieur se place et se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il éloigne ses péchés de lui, un éloignement qui nie toute rencontre, comme il n'y a point de rencontre ou comme il n'y aura jamais de rencontre entre l'Orient et l'Occident, et de وَأَنْيُزِلْ عَنْهُ الذُّنُوبِ, et d'enlever de lui tous les péchés et toutes les erreurs, et de le purifier de celles-ci, comme la saleté est purifiée d'un vêtement blanc, qui après avoir été lavé, eh bien, retrouve sa clarté. وَأَنْ يَغْسِلَهُ مِنْ خَطَيَاهُ, et de le laver de ses péchés, et de rafraîchir sa flamme et sa chaleur, c'est-à-dire du péché, de rafraîchir les flammes et la chaleur du péché à travers ces moyens de nettoyage qui sont frais, à savoir l'eau, la neige et la grêle. وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. Et ces trois choses se ressemblent grandement, c'est-à-dire l'eau, la neige et la grêle. أحكام الحديث, les jugements à retenir du hadith. أولا استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة. Premièrement, qu'il est préférable et recommandé de faire l'invocation de l'ouverture pendant la prière.
ثانياً إن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة.
Deuxièmement, que le moment dans lequel se dit l'invocation de l'ouverture est après le takbir et avant la lecture de l'Fatiha de la première raka'a de chaque prière. Quand est-ce qu'on fait du'a al-istiftah, l'invocation de l'ouverture, entre le takbir, le premier takbir, et la lecture de l'Fatiha lors de la première raka'a de chaque prière. De chaque prière, quelle que soit celle-ci, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire.
Thalithan, an yusirra bihi walau kanat as-salah jahriyah.
Ce que l'on retient du hadith également, c'est que l'invocation de l'ouverture se dit à voix basse, même si la prière est faite à voix haute. Car les compagnons n'entendaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam la dire. Cela prouve que elle se dit à voix basse.
Rabi'an, innahu la yutalu fihi ad-du'a wa la siyama fil jama'ati lis-salawat al-maktubah.
Quatrièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que l'on ne doit pas être long dans cette invocation. Et ceci d'autant plus lorsque l'on prie en groupe pendant les prières obligatoires. La preuve que la dua est courte,
نعم هنيهة أو هنية lorsque Abu Huraira رضي الله عنه a dit que le professeur صلى الله عليه وسلم faisait un silence qui était court.
خامسا حرص الصحابة على رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته.
Cinquièmement, l'ardeur qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'intérêt qu'ils avaient à suivre l'ensemble des situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en mouvement ou qu'il soit en station sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
Sadisan, innahu yanbaghi fi mawatin ad-du'a
أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منه متحد، وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. Sixièmement, qu'il est demandé lorsque tu invoques d'être humble dans ton invocation et de demander plusieurs fois la demande d'une chose, même si les termes sont différents. Car dans les invocations qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'ouverture, ce sont toutes des invocations qui tournent autour du pardon des péchés et une demande à Allah Azza wa Jal de nous éloigner des péchés, comme de choses que les péchés soient pardonnés et que l'on soit éloigné d'eux. Et également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'eau, de la neige et de la grêle, est-ce que ce sont des choses qui sont similaires ou qui ont des points en commun? Oui. Le fait de dire l'eau, la neige et la grêle, la neige c'est de l'eau, la grêle c'est de l'eau. L'eau en général est fraîche, la neige est fraîche et la grêle est fraîche également, ou est fraîche également. Donc, et le but est unique, à savoir de demander à ce que les péchés soient purifiés, d'être purifiés des péchés et également qu'ils soient, que l'ardeur et la chaleur de ces péchés soit atténuée et éradiquée par ces substances fraîches. Donc ceci pour dire que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu as le droit de demander une chose plusieurs fois en utilisant des synonymes ou des phrases qui rejoignent le même sens. فَإِدَتَانَ الأولى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، وكلها جائزة لأنها واردة، ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم إلى آخره، لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس، وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها، بل يقولها كلها ليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. Deux remarques fait l'imam al-Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah. La première, il est rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs invocations d'ouverture de la prière. Parmi ces invocations, celle que l'on étudie actuellement, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay, ô Seigneur, éloigne mes péchés de moi, etc. jusqu'à la fin. Et il y a l'autre invocation, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, je dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, jusqu'à la fin de l'invocation. Et il y a aussi l'autre invocation qui est la plus connue, subhanak allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa la ilaha ghayruk. Et il dit rahimahullah, elles sont toutes autorisées car elles ont toutes été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais l'imam Ahmad rahimahullah a choisi la dernière de celles-ci, qui est subhanakallahumma wa bihamdik. Car c'est une invocation qui contient la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui immensifie Allah et qui l'unifie subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu la disait à voix haute afin de l'enseigner aux gens. Et il est demandé aux prieurs de ne pas se restreindre à chaque fois à l'une de ces invocations, mais de toutes les dire, afin que son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le plus parfait possible, et afin également de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car il n'y a aucun doute que si tu apprends toutes ces invocations et que tu les dis chacune de temps en temps, que tu auras fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et de choisir celles qui sont courtes dans les prières en groupe et de choisir celles qui sont longues dans les prières de la nuit. Car la prière de la nuit se fait en général seule, sauf pendant le mois du Ramadan où celle-ci est légiférée en groupe. Ou lorsque cela a été fait de façon non préméditée comme on l'a vu dans les cours précédents. الثانية من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. Et la deuxième remarque de Cheikh Abdullah al-Bassam, il dit ce qui est connu, c'est que c'est l'eau chaude qui nettoie mieux les saletés. Or, في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور. Pourquoi alors est-ce que dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la neige et de la grêle alors que ce qui est demandé est d'être purifié des péchés? Or, ce qui purifie la saleté, c'est plus l'eau froide ou l'eau chaude? L'eau chaude. Al-jawab, la réponse. قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمهما الله ومعناه لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفي هذه الحرارة وذاك التلهب. La réponse est que les savants ont donné beaucoup d'explications pour justifier le fait que ce sont des choses fraîches qui ont été citées au lieu de l'eau chaude. Et la meilleure des réponses est celle qu'a citée Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, qu'il rapporte lui-même de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de l'encens dont le sens est lorsque, à partir du moment où les péchés ont une chaleur, eh bien, il est logique que la substance qui va éradiquer celle-ci soit fraîche afin qu'elle éteigne la chaleur et les flammes de ses péchés. طيب الحديث الثامنون. Le 80e hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا نعم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وجب القراءة نعم. Certains savants ont dit que c'est une erreur, al-qira'ati, que c'est al-qira'ata. Et certains parmi le Malikiyya utilisent le fait que c'est al-qira'ati pour dire qu'il n'y a pas de dua al-istiftah. Pour dire qu'il n'y a pas de dua al-istiftah, car le hadith c'est il commençait sa prière par le takbir et la lecture de l'Fatiha. D'accord? Donc, les tartib, na'am. Donc ici, c'est al-qira'ata, la la lecture authentique, c'est Al-Qira'ata. Bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yastaftihu s-salata bit-takbiri wal-qira'ata bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin kana bayna dhalik. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'ida. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم ولا يوجد عند البخاري بهذا اللفظ سنو عائشة رضي الله عنها. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait la prière par le takbir et la lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas sa tête ni ne la baissait, mais était entre les deux. Et lorsqu'il levait sa tête de l'inclinaison, il ne se prosternait que lorsqu'il était debout. Et il ne relevait sa tête. Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait pas jusqu'à s'être assis. Et il disait à chaque paire de raka'a, c'est-à-dire toutes les deux raka'a, il disait at-tahiyya. On verra at-tahiyya ce que c'est. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Et il allongeait son pied droit et levait son pied gauche, il allongeait son pied gauche et levait son pied droit. Et il interdisait de faire où il interdisait uqbatu shaytan, on verra ce que c'est. Et il interdisait à l'homme d'allonger ses avant-bras comme l'allongent les bêtes féroces. Et il terminait sa prière par le taslim, hadith authentique, rapporté par Muslim, et ces termes ne sont pas présents dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Autrement dit, le 80e hadith est un hadith qui est rapporté uniquement par Muslim dans son sahih. Ceux-ci font partie des hadiths qui font l'exception et qui ne rentrent pas dans la condition qu'avait donné l'auteur lorsqu'on avait commencé le livre. On a dit que l'auteur avait pris pour engagement de citer dans ce livre que les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc la plupart effectivement, mais pas tous, et parmi eux, ce hadith de Aïcha radiallahu anha, qui a été rapporté par l'imam muslim uniquement. Gharibul hadith. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Awalan bilhamdulillahi arrafu ala al-hikaya. Et la lecture par alhamdulillahi rabbil alamin. Bilhamdulillahi. Normalement, ça devrait être bi. Ba, c'est quoi? Hafjar. Naam? Naam. Normalement, c'est bilhamdi lillah. Mais ici, c'est bilhamdulillah, car elle cite al-hikaya, elle cite alhamdulillahi. Donc, c'est entre guillemets. Qui commence par Alhamdulillahi. Pour cela que Alhamd ici est marfoua. Thaniyan, lam yushkhis bi dhammi al-ya wa iskan al-shin al-mu'jama. C'est quoi al-shin al-mu'jama? Quand on parle de mu'jam et de muhmal, c'est quoi? Naam. Bi iskan al-shin al-mu'jama, c'est-à-dire avec les points. Les savants du hadith utilisent beaucoup cela et les autres pour corriger et être sûr que l'on parle de la même chose. Quand tu dis Ash-Shin, si on avait écrit Wa Iskan Ash-Shin, est-ce que quelqu'un aurait pu se tromper en disant, en écrivant Shin au lieu de Sin? Ici, l'auteur dit Bidammilia, c'est-à-dire que l'Alia est Madmouma, c'est-à-dire qu'il y a une Damma dessus. Yushriso. Donc sur l'Alia, il y a une Damma. Wa Iskani Shin al-Mu'jama. Et sur le Shin, il y a un Sukun. Mais il a dit Shin al-Mu'jama pour appuyer que on parle bien du Shin. Parce que même en écrivant, si quelqu'un aurait pu écrire wa iskani shin, alors qu'en fait, ou iskani sin, alors que l'auteur voulait dire shin. On peut se tromper à mettre trois points ou à ne pas les mettre. Mais quand on dit mu'jama, c'est-à-dire qu'il y a des points. Et ça évite l'erreur, on peut pas écrire bisin al-mu'jama. Parce que sin, elle n'est pas mu'jama. Il y a des points, il n'y a pas de points sur le sin. Or sur le shin, il y en a. Donc quand vous entendez mu'jam, que ce soit dans shin, que ce soit dans le kha par exemple, ou dans le jim, ou dans le ba, non le ba il n'y a pas de ba sans point. Naam. Dans ta, naam, etc. Donc quand on dit mu'jam, c'est quand il y a des points. Et quand on dit muhmal, c'est quand il n'y a pas de points. Thumma kusira al kha ou al mu'jama. Et il y a une kasra sur le kha, al mu'jama, c'est-à-dire qu'on parle bien du kha avec un point. ثم صاد المهملة الصاد qui n'a pas de point أي لم يرفعه ومنه الشاخص للمترفع c'est-à-dire لم يشخص c'est-à-dire que le professeur Assalam ne surélevait pas sa tête n'élevait pas sa tête ولم يصوبه ثالثا ولم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة الواو المشددة c'est نعم بشده اي لم يخفضه خفضا بليغا c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il faisait un rukou' l'inclinaison ni il ne levait sa tête par rapport à son dos ni il ne baissait sa tête par rapport à son dos mais la tête était au même niveau que le dos رابعا يفرش بضم الراء وكسرها والضم اشهر il est autorisé de dire يفرش ou bien yafrishu. Et ce qui est le plus réputé, c'est yafrishu. Khamisan, uqbatash bidammil ayn. Fassarahu Abu Ubaida wa ghayruhu bil iqa'il manhi anhu. Uqba, c'est-à-dire uqbatu shaytan. Abu Ubaid et autres ont expliqué que c'est al iqa'a qui est interdit. Qu'est-ce que l'iqa'a? Non? C'est s'asseoir sur les deux talons. Non. Ça, c'est al-iqa'a al-ja'iz. Parce qu'il y a l'iqa'a autorisé et il y a l'iqa'a interdit. L'iqa'a qui est autorisé, c'est le fait de mettre droit ses pieds et de les lier et de s'asseoir et de poser ses fesses sur ses talons. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer à l'Iqa pour le montrer? Tandal Nadir. Monte sur le minbar. Naam, c'est ça l'Iqa. Et ça c'est autorisé quand? Bain as-sajdatayn. Et il y a l'Iqa al-mamnou qui est déconseillé ou interdit. C'est le fait, bon, il y en a plusieurs que les savants citent. Ils citent le fait de s'asseoir en allongeant les deux pieds et en posant ses fesses sur le talon. Montre.
Sur le talon?
Non.
Ah, c'est-à-dire les deux pieds.
Les pieds allongés.
Ils le font souvent, ça, les gens.
Les pieds allongés.
Quoi, ça,
c'est-à-dire? Non. Il y a certains savants qui disent ça. D'autres ont dit c'est ça plus un autre iqa'a, c'est le fait de poser ses fesses entre les pieds. Non, fais-le.
C'est dur,
hein. Voilà, c'est d'écarter les jambes, de s'asseoir en posant les pieds, en écartant les jambes et en posant les fesses entre les jambes. Ça aussi, c'est fait partie de l'iqa'a المنهي عنه. نعم في الصلاة. نعم. سادسا يستفتح أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب. نعم. Donc il stafthihu, c'est-à-dire qu'il commençait, et ici c'est pour montrer, pour appuyer le fait qu'il ouvrait la prière et non pas une demande. Car ista, lorsqu'il précède un verbe, c'est pour demander. Istada'a. Istada'a, c'est-à-dire il a demandé à ce que l'on vienne. Non. Pourquoi ?
Parce qu'il y a plein de trucs que tu dis, il y a pas.
T'étais sur le bon chapitre ?
Ah,
il manque ? Ah, faire attention au tabarat. Khair, Inch'Allah. Tu l'as acheté en Algérie, celui-là ? Ah, Khair, Inch'Allah. طيب المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه وإنما يجعله مستويا مستقيما وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله والصلوات إلى آخره وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha décrit dans ce hadith important la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il commençait la prière par le takbir, takbirat al-ihram, en disant Allahu Akbar. Puis il commençait la prière de l'Fatiha, la surat de l'ouverture, dont le début est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il s'inclinait après être resté debout, c'est-à-dire lors de sa lecture, il ne levait sa tête ni l'abaissait, mais il plaçait ou il était positionné de façon droite. Et le savant expliquait que la tête doit être au même niveau que le dos. Et lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il se positionnait debout, c'est-à-dire qu'il était debout de façon complète avant de se prosterner. Car certains, et ceci est une erreur grave, lorsqu'ils se lèvent du recours, n'attendent même pas de se mettre complètement debout pour se prosterner. Et ceci est une grave erreur dans la prière. Et lorsqu'il levait sa tête, lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait, c'est-à-dire une nouvelle fois, que lorsqu'il était correctement assis. Et il disait après deux rak'at lorsqu'il était assis, c'est-à-dire pendant le tashahhud, at-tahiyyatu lillah wa salawat, jusqu'à la fin de la tahiyya que l'on verra par la suite et que l'auteur cite, ou plutôt il cite celle qui est la plus répandue et la plus authentique, qui est celle rapportée par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'il s'asseyait, il allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus, et il levait son pied droit, il posait droit son pied droit, et il interdisait que le prieur s'assied dans sa prière comme s'assied le diable, et ceci en allongeant ses deux pieds sur terre et en s'asseyant sur ses talons. Ou bien, an yansiba qadamay, de positionner droit ses pieds et de poser ses fesses entre les deux par terre. Donc ici, le iqa manhi qu'a cité Cheikh, c'est lorsque les deux pieds sont levés, écartés et poser ses fesses sur la terre. Tu peux montrer, Nader?
C'est dur. C'est dur, ça.
Non, inshallah. Comme il a interdit d'allonger les avant-bras pendant la prosternation, comme le font les bêtes féroces. Montre, Nazir, comment on fait. Comment on ne doit pas faire, plutôt. Comment on ne doit pas faire. Voilà. C'est d'allonger ses avant-bras par terre lorsque l'on est prosterné. Et comme le professeur sallam a ouvert la prière en immensifiant Allah et en disant que c'était le plus grand, eh bien, il l'a clôturé en demandant le salut, en demandant à Allah le salut à tous ceux qui sont présents parmi les anges et les prieurs, puis à l'ensemble des serviteurs d'Allah, les vertueux, les premiers comme les derniers. Et le prieur doit prendre en compte et doit avoir à l'esprit tous ses sens lorsqu'il fait ses invocations. Ici, Cheikh Al-Bassam, lorsqu'il parle, il clôture la prière en demandant le salut. Il parle de quelle parole? Est-ce qu'il parle du Taslim? Ou est-ce qu'il parle de At-Tahiyya? Ou des deux? Non? Ça peut être les deux. Mais quand tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum, c'est une invocation que tu fais. Tu demandes à Allah Azzawajal le salut. C'est-à-dire que Allah Azzawajal nous préserve de toutes choses mauvaises, etc., etc. Et ceci, tu le demandes à toi, à ceux qui sont présents parmi les êtres humains, les anges, mais aussi à l'ensemble des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais on peut aussi comprendre de la parole de Cheikh, rahimahullah ta'ala, que c'est également ce qui est dit dans le tashahhud. Car dans le tashahhud, à la fin, on dit « Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ». Donc, on peut comprendre la parole de Cheikh sous ces deux aspects. Wa naktafi bi hadha al-qadr, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.